France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2003, Philippe Cohen et Pierre Péan publiaient La face cachée du monde. Un livre dans lequel ils attaquaient violemment ceux qui dirigeaient le monde à cette époque, Jean-Marie Colombani, Edwy Plenel et Alain Minc, coupables à leurs yeux d'avoir perdu de vue et même complètement trahi l'éthique sur laquelle Hubert Beuve-Méry avait fondé le monde. Trahi par la ligne éditoriale suivie depuis leur direction et, plus grave, trahi par une dérive vers des cercles de politique, d'affaires et d'argent dans laquelle ils auraient entraîné le journal. Au lendemain de la parution de ce livre, qui faisait grand bruit, Marc Voinchet et Antoine Guillot avaient invité ses auteurs à le présenter et à en débattre dans « Tout arrive ». Face à eux, Philippe Cohen et Pierre Péan trouvaient autour de la table la journaliste Jacqueline Hénard, le journaliste John Henley, Alain Gérard Slama du Figaro et l'historien des médias Patrick Evenot. Dans cette émission, où les auteurs de La face cachée du monde peinaient à convaincre leurs interlocuteurs du bien fondé de leur dénonciation, intervenait également, mais à distance, le président de la Société des rédacteurs du Monde, Michel Noblecourt. Tout arrive à propos de La face cachée du monde. Première diffusion le 27 février 2003 sur France Culture.
Tout arrive avec aujourd'hui Pierre Péan, Philippe Cohen, Alain Gérard Slama, Jacqueline Hénard, John Henley, Patrick Evenot et Michel Noblecourt. Une émission en compagnie d'Antoine Guillot, préparée par Antoine Lachance, Geneviève Méric et Stéphane Grant. À la console de diffusion aujourd'hui, Claude Courteau, une émission réalisée comme tous les jours par Doria Zénine. Tout arrive avec vous donc aujourd'hui, Pierre Péan et Philippe Cohen, bonjour. La parution de votre livre hier en librairie, La face cachée du monde aux éditions Mille et une nuits, suscite donc un émoi et une curiosité considérable, autant dans le milieu journalistique, politique, qu'auprès du public. En témoignent les 60 000 exemplaires vendus dans une seule journée, la journée d'hier de mercredi. Sans doute l'effet d'annonce suscité par la publication la semaine dernière des extraits du livre dans l'Express et dans le Canard enchaîné a-t-il attisé la curiosité, mais surtout, votre livre met gravement en cause l'équipe de direction d'un quotidien généralement considéré comme une véritable institution, une véritable référence, dont la réputation reste attachée au nom de son fondateur, Hubert Beuve-Méry, dont le nom figure toujours au frontispice de la une du Monde. Vos attaques, Pierre Péan et Philippe Cohen, à l'égard de l'équipe dirigeante du Monde et de certains collaborateurs journalistes de la rédaction du journal. Ces attaques sont extrêmement graves, tant elles mettent en cause leur honnêteté intellectuelle. Votre charge pourrait se résumer par cette idée selon laquelle le Nouveau Monde, comme vous dites, comme vous l'appelez, ne serait pas un journal désintéressé, pour reprendre votre expression. Ce journal, selon vous, serait sorti du rôle de contre-pouvoir que l'on a coutume d'attribuer au Monde, mais à la presse en général, pour dériver vers l'abus de pouvoir. Pire, il y aurait au Monde, selon vous, je cite, toutes les caractéristiques de fonctionnement d'une institution totalitaire. Nous avons souhaité que cette émission puisse se dérouler en deux temps. Dans une première partie, nous aimerions tenter de dégager avec vous à la fois l'origine de cette enquête. Nous aimerions en connaître également les faits saillants de votre livre. Un livre qui appelle naturellement débat, qui soulève de nombreux points de questions, des reproches, des critiques sévères aussi, à tel point que la direction du journal Le Monde envisage de porter l'affaire en justice. Bien entendu, nous avions invité pour cette émission les trois personnes que vous mettez dans ce livre le plus gravement en cause. Jean-Marie Colombani, directeur de la publication du Monde, Edoui Plenel, son directeur de la rédaction, et Alain Minck, le président du conseil de surveillance. Les trois personnes, pour l'instant, ne souhaitent pas s'exprimer dans ce cadre. Alors, dans la seconde partie de Tout arrive, nous accueillerons trois confrères, Alain Gérard Slama, éditorialiste au Figaro et qui tous les matins assure une chronique sur France Culture dans l'émission de Nicolas Demorand, Jacqueline Hénard, journaliste allemande à Paris et qui connaît bien l'économie de la presse et qui connaît bien toutes les questions relatives à la presse et à l'Europe, John Henley, correspondant du Guardian à Paris, et puis Patrick Evenot, lui, est historien. Il est auteur notamment d'une thèse sur l'histoire d'une entreprise de presse, Le Monde 1944-1995, publié au Monde Édition. Il va de soi, en ce qui nous concerne ici à Tout arrive, que nous souhaitons, je le dis juste en préambule, que nous souhaitons, pour la conduite de cette émission, comme le réclamait Hubert Beuve-Méry lui-même, tendre vers une subjectivité désintéressée. La première question que je voudrais vous poser, et que nous voudrions vous poser avec Antoine Guillot, sans en faire toute la première partie, mais tout de même, on dit ça et là, on a pu lire que vous avez été mariés tous les deux, Philippe Cohen et Pierre Péan, pour faire ce livre par l'éditeur à l'origine de la publication de ce livre, Claude Durand. Philippe Cohen dit non. De la tête.
On n'a pas été mariés, on se connaissait. À un moment donné, chacun travaillait de son côté sur cette enquête. Donc on entendait parler l'un de l'autre. On s'est rencontrés plusieurs fois, on a discuté et finalement, on a décidé d'unir nos efforts. Chez Fayard Mille et Une Nuits, c'est-à-dire à la maison d'édition dirigée par Claude Durand. Il n'y a pas de mariage par Claude Durand.
C'est pas lui du tout qui a fait le mariage.
Pierre Péan.
J'avais seulement essayé plusieurs autres éditeurs quand j'étais tout seul. Ça n'avait pas marché. Et Claude Durand, ayant entendu que je travaillais sur ce sujet, m'a contacté. Et donc, voilà comment c'est fait. C'est seulement après que nous avons uni nos efforts. Et déjà, j'étais en rapport avec Claude Durand.
D'ailleurs, moi, je n'avais pas d'éditeur. Donc, je connaissais pas Claude Durand. Je n'avais pas d'éditeur. Donc, je ne pouvais pas, vous voyez.
Un petit rappel à cause de l'oubli dans le chapeau. Je rappelle, Philippe Cohen, que vous êtes journaliste et responsable du service économie de Marianne. Je lis la quatrième couverture de votre livre. Et vous, Pierre Péan, là, il y a marqué enquêteur-écrivain. Donc, plus du tout, il ne faut pas dire journaliste d'investigation.
Pas du... J'ai cette étiquette qui m'énerve beaucoup. Parce que je...
Parce qu'avec, après tout ce que vous dites sur l'investigation dans votre livre, évidemment.
Je considère que le journaliste d'investigation est une imposture, c'est-à-dire que les lecteurs ne savent pas comment ça fonctionne. Et que les journalistes d'investigation, c'est ceux qui n'enquêtent pas. Parce qu'ils prennent leur papier des juges ou des policiers. Et ils n'ont généralement qu'une seule source, et remettent en scène les PV d'audition. Et donc, c'est une façon de travailler qui est évidemment rapide, efficace. On n'a pas beaucoup de risques parce qu'on a le tampon justice et de la police.
En général, on attend le fax dans le bureau.
On attend, l'outil principal est le fax.
Quelle a été votre méthode, donc, alors, à tous les deux, une fois que vous avez décidé de co-signer ce livre?
Ah non, mais attendez, avant, on a travaillé chacun de notre côté.
Oui. Hein, donc, on travaillait chacun sur des dossiers.
Avec des angles différents.
Qu'est-ce
qui vous intéressait, vous, Philippe Cohen? D'abord, avant même l'idée de co-signer le livre, c'était quoi pour vous? D'enquêter sur Le Monde.
Moi, c'était essayer de comprendre. Moi, si vous voulez, je suis quand même... je lis Le Monde depuis que j'ai 15 ans. C'est-à-dire ça fait un bout de temps, c'est depuis 1969. Et Le Monde, ça a été mon éducation civique. C'est le premier regard sur le monde sans majuscule pour moi, comme toute une génération de Français, ça a été Le Monde. À tel point que j'ai été engagé pendant des années dans l'extrême gauche quand j'étais très jeune. À ce moment-là, je considérais que Le Monde était un journal bourgeois, comme on disait à l'époque. Et pourtant, j'avais une confiance envers ce journal que j'ai perdue. Au milieu, disons, des années 90. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, alors après, vraiment le point d'alerte, ça a été 1995 et la campagne en faveur d'Édouard Balladur.
Pierre Péan.
Moi aussi, je suis un lecteur bien plus vieux. J'ai commencé à lire Le Monde en 55, mais tous les jours à partir de 59. Donc, je dirais que toute mon éducation a été faite par Le Monde. Ce que j'aimais surtout dans Le Monde, même si je rageais souvent contre ce journal, c'était son type de rapport, notamment le rapport Sirius de Gaulle. Je veux dire, c'est celui-là qui est pour moi un modèle. Et puis, j'ai les premières sensibilisations, les premiers désaccords, mais qui n'étaient pas l'objet qui ne pouvaient pas faire l'objet de papier ni de livre. C'est comme je suis enquêteur et je sais un peu comment se font les enquêtes. J'ai été en désaccord déjà sur parce que je savais un peu les dessous de certains grands coups qui ont été faits par Le Monde et par Louis Plenel. Donc j'avais des désaccords sur le fond, si vous voulez, sur les méthodes d'enquête, etc. Et puis, mais ça ne suffisait pas. C'est au début des années 90, j'ai trouvé un changement très fort, c'est-à-dire sur les unes sont devenues des unes qui étaient des campagnes, hein, des campagnes contre des hommes politiques et surtout des campagnes contre François Mitterrand. Et je trouvais que là, on dépassait largement le devoir d'informer. On passait dans quelque chose de violent, de où il y avait de la haine, où on voulait voilà, en fait.
Ça donne lieu à des chapitres, notamment le monde, ce que le monde est, hein, comme
personnage. Le monde tel qu'il est.
Le monde tel qu'il est, tel qu'il est, H-A-I-T.
Et donc là, et puis quelque chose de bien précis pour moi, enfin, mais si j'essaie de refaire l'histoire de ma propre histoire, c'est-à-dire, j'ai pas du tout apprécié la façon dont ils ont pris une jeunesse française sur François Mitterrand, où en fait ils l'ont, à la fois ils en ont fait la promotion, mais à la fois ils ont détourné le propos, c'est-à-dire pour uniquement situer sur 42, et puis il y a le papier qui m'a beaucoup marqué, il y a un papier de septembre 94 qui met les viscères de François Mitterrand sur la table, je trouve le papier le plus honteux qui ait jamais été écrit. Et puis après, c'est la baladurisation, si vous voulez. C'était tellement visible cette une qui était prise sans précaution pour dire que l'élection était déjà jouée, l'élection présidentielle, en même temps que le président du conseil de surveillance était conseiller de Balladur. Il y avait quelque chose qui était totalement impossible dans le monde d'avant.
Au départ, c'est une critique sur une conduite éditoriale.
Oui.
Ça n'est pas forcément le fait que ce soit des hommes qui
au début,
qui
c'est des conduites éditoriales.
Il faut bien s'entendre sur la critique. Hein. Je veux dire, on ne reproche pas du tout au Monde, c'est écrit en toute lettre dans le livre, de s'être engagé en faveur d'un homme politique. Il l'a fait à différentes reprises dans son histoire. Le problème, c'est la façon de le faire. On oppose la façon de le faire à l'occasion de l'élection présidentielle pour Édouard Balladur, qui est une façon un peu tordue. C'est-à-dire à la fois en disant, au début de la campagne, ça on n'avait jamais vu ça, pour l'opinion française, l'élection présidentielle est déjà jouée. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas la peine d'aller voter, tous les Français ont fait leur choix, c'est Balladur qui va être le premier président. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est beaucoup plus grave, c'est que on diligente à ce moment-là une série d'enquêtes, contre le concurrent d'Édouard Balladur pour le tuer en pleine campagne, hein, comme on le fait apparaître notamment sur cette affaire qui concerne Bernadette Chirac et la famille Chaudron de Courcelles. Hein, donc alors là, il y a une rupture, si vous voulez, avec une tradition d'engagement politique qui est tout à fait respectable.
Antoine Guillot.
Oui, la question des... Je ne sais pas si on m'entend, là. La question des deux objectifs que vous pouviez avoir, puisqu'on sent bien qu'il y a à la fois une critique sur des méthodes, qu'il y a avec des enquêtes très précises sur ce qui pourrait s'apparenter à du trafic d'influence, à de l'abus de pouvoir, mais il y a aussi une critique, on pourrait dire, d'une dérive idéologique. Il n'y a pas uniquement la question de Balladur. Vous mentionnez aussi, dans ce fameux chapitre, « Il n'aime pas la France et le monde non plus », que ils sont peut-être trop en faveur du métissage de l'Europe. Est-ce que là...
Attends, je vais d'abord répondre à la question que vous avez posée, que vous avez relayée au début. Au début de l'enquête, en ce qui me concerne, je n'ai aucune idée, mais strictement aucune idée, de l'aspect entreprise-monde. Je vais que sous l'aspect... Il y a deux choses qui me préoccupent. C'est l'utilisation du journaliste d'investigation hein, et l'aspect éditorial et l'aspect hiérarchisation, l'aspect campagne. Hein, c'est, je pars que là-dessus. Hein, je n'ai pas du tout, hein, et c'est seulement au fil de l'enquête que je pense qu'on va y revenir un moment. Je trouve ce qui pour moi est les choses les plus importantes, les plus graves, c'est-à-dire c'est les problèmes de la confusion des genres. Enfin, on en reparlera sur l'affaire des NMPP ou Vivendi, etc. Donc voilà, je voulais dire comment je démarre l'enquête, hein, et après on répondra à votre question. Là.
Puisque vous parlez de l'entreprise Monde, c'est un des aspects qui est le plus surprenant, je dois vous dire, hein, quand on lit votre livre, c'est comment le groupe Le Monde se constitue et comment il va racheter des entreprises de presse, que ce soit en particulier le Midi Libre, prendre une participation dans le groupe de la Vie catholique, pour, dites-vous, se constituer une trésorerie, c'est-à-dire faire un peu comme a fait Vivendi ou Enron, racheter des sociétés pour financer une structure qui au départ est de toute façon déficitaire.
Oui, c'est au cours de l'enquête. Moi, j'en avais pas du tout l'idée d'aller voir sur les comptes, sur cet aspect-là, moi, je me suis fait aider par des professionnels pour analyser notamment ce que Le Monde présentait dans sa rubrique média. Et au fil de l'enquête, il est apparu évident que il y avait un problème majeur qu'a pris en main la nouvelle direction, c'était le déficit structurel du vaisseau amiral qu'était Le Monde, et dont la seule pérennisation ne pouvait être assurée que par l'adjonction de groupes qui pourraient finalement subventionner
Vous écrivez, Jean-Marie Colombani a quitté Le Monde du journalisme pour celui des affaires.
Oui, enfin, pour poursuivre par rapport à votre question Le Monde groupe Rédateur, c'est que là, le point d'alerte, c'est quand même les discussions avec l'Express. Hein, puisque le prix proposé pour l'Express et surtout les modalités de rachat qui sont...
Il faut rappeler qu'Havas veut se séparer de l'Express, qu'il y a des candidats au rachat Le Monde souhaite racheter l'Express. Et là, vous montrez effectivement que la tractation est relativement apocalyptique, en tout cas du point de vue de celui qui vit très mal cette tentative de rachat, à savoir le directeur de l'Express, Denis Jambard.
Non, il y a deux choses. Il y a une extrême maladresse dans la manière d'approcher une rédaction qui consiste en fait à essayer, si vous voulez, de mobiliser les lieutenants contre le général, quoi. Qui est une vraie maladresse. Hein. Donc, il y a ça. Et il y a d'autre part, si vous voulez, des modalités de paiement qui sont très différées et qui, au fond, laissent subodorer l'idée qu'on va, si vous voulez, au fond, payer l'Express avec l'argent de l'Express. Comme aujourd'hui, presque tous les actionnaires du groupe VPC Télérama reconnaissent, en tout cas en privé, que le prix de la transaction, du rachat de 30% du capital de Télérama est très très largement en dessous de la valeur de cette entreprise.
Comment quelqu'un qui vend un groupe ou un journal accepte de le vendre moins cher que sa valeur?
Oui, mais il y a quand même un actionnariat, si vous voulez, qui est éclaté. Il y a des gens par exemple, je vous dis certains des actionnaires, c'est par exemple les sociétés de personnel, mais bon, encore une fois, c'est complexe, c'est un dossier d'ailleurs assez compliqué parce qu'il y a des aspects psychologiques, hein, mais ce qui est pas tant, c'est que le prix de la transaction, si vous voulez, est très nettement en dessous, d'après tous les spécialistes, hein, très nettement en dessous, si vous voulez, du prix réel de la valeur, si vous voulez, de cette entreprise. Et on voit bien que l'objectif, le danger, c'est que l'objectif est de, finalement, ponctionner, si vous voulez, l'entreprise pour faire financer le déficit structurel du vaisseau amiral Le Monde.
Et que du coup cette espèce d'expansion, on pourrait dire entrepreneuriale, capitalistique, a des effets réels sur la ligne éditoriale, que c'est là que l'on passe du contre-pouvoir à l'abus de pouvoir, parce que il faut ensuite au fond se situer par rapport à des sociétés ou aux amis du Monde ou à des entrepreneurs qui peuvent financer le journal, et que donc quoi, on a ses amis et ses préférences, et que cela influe sur la ligne éditoriale du journal.
Je crois que le Pierre Péan. Pour moi, peut-être le chapitre le plus fort, le plus emblématique, c'est l'affaire des journaux gratuits, hein, l'affaire de 20 minutes. Je la résume. un groupe norvégien veut s'installer en France, le 20 minutes, et il cherche évidemment des appuis, sachant donc les problèmes que ça pose auprès de l'establishment, et il se rapproche de la direction du Monde. Et dans les papiers, que pour être clair, j'ai, les choses sont clairement définies. Ce qu'ils cherchent dans une association, c'est que le Monde agisse en tant que pouvoir et en tant que pouvoir qui ouvre les portes. Hein. C'est clairement ça. C'est pour ouvrir des portes auprès de France Rail, c'est ouvrir des portes auprès de la mairie de Paris, ouvrir des portes auprès de Matignon. Et contre ça, il y a une rémunération qui est prévue, dont on donne les éléments, 2,5 au capital d'abord, plus 7,5 ensuite. Et bon, on raconte que bon, au bout d'un certain temps, le groupe norvégien se rapproche plutôt du Parisien, donc il y a une rupture. Et ce qui est terrible, c'est le changement éditorial alors comment ça se produit à l'intérieur, ça je ne sais pas comment ça se produit, mais on peut constater que après cette rupture, il y a des éditoriaux qui sont favorables aux journaux gratuits. Et la fin de l'histoire, pour la faire brève, eh bien, la direction du Monde demande, puisque il y a une rupture, elle demande pour les travaux faits, les travaux de lobbying faits, demande une rémunération qui est quand même très très importante.
C'est voilà. Le cas aussi dans l'affaire des NMPP.
Alors les NMPP, c'est la deuxième affaire, qu'a sorti d'abord le Canard avant le livre, et qu'a sorti ce qui n'est pas dans le livre, la facture, qui est tout à fait symbolique. Là aussi, qu'est-ce que c'est? C'est le journal Le Monde qui, comme les autres éditeurs, a essayé que le gouvernement Jospin donne une subvention pour la distribution. Mais la seule différence entre Le Monde et les autres éditeurs, c'est qu'ils ont pas. Le Monde a présenté une facture de lobbying et plus d'autres choses qu'on raconte, c'est-à-dire que les NMPP ont fait des ristournes. Autrement dit, c'est un financement déguisé, mais qui est la contre-valeur du lobbying.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand Le Monde fait des éditoriaux, par exemple, c'est pour faire une campagne de lobbying et faire payer derrière.
Faut pas non plus du tout généraliser. Dans l'affaire des NMPP, nous ne mettons pas en avant des éditoriaux sur l'affaire.
Des 20 journaux. Minutes. C'est surtout qu'en 20 minutes.
C'est 20 minutes.
Voilà. À un moment donné, il prend position. Le voilà. Monde attaque 20 minutes en disant qu'est-ce que c'est que cette presse gratuite? Elle n'a pas de légitimité. C'est de la concurrence déloyale. Et en même temps que le groupe Colombani, si vous voulez, là plus comme éditorialiste, mais comme directeur de l'entreprise Le Monde, négocie, comme l'a expliqué Pierre Péan, avec le groupe norvégien.
C'est une des thèses de votre liste, qu'il y a une double face de la part de l'équipe dirigeante, pas seulement de Jean-Marie Colombani, quant à ceux qui dirigent le Monde.
Pour moi, cette facture MPP, elle était intéressante, pas par son montant, mais par le symbole. C'est-à-dire que, ce qu'on essaie de développer, c'est que ça passe de contre-pouvoir à pouvoir, et là, il y avait le symbole, puisque c'était écrit que c'est pour du lobbying. Hein, donc, voilà.
Bon, mais enfin, cela dit, après tout, enquêter sur le fonctionnement financier, sur le changement de statut d'un journal qui devient une véritable entreprise de presse, un groupe de presse, et pas et comme beaucoup de journaux aujourd'hui, a sa légitimité vraisemblablement. Pourquoi, en même temps, votre livre est-il axé ensuite sur une espèce d'attaque véritable des hommes, y compris dans leur vie, dans leur biographie, qui délégitimerait le journal et qui, du coup, tout de même, quand on vous lit, semblerait, alors vous allez me répondre que non, mais enfin, semble porter un sale coup à un journal tout entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tellement plus à la mode de taper sur les journalistes et de dire du mal de la presse que là, on se demande pourquoi vous ne vous êtes pas limité à quelque chose qui aurait été une véritable analyse financière, finalement, d'un journal, de l'évolution d'un groupe à partir d'une nouvelle équipe dirigeante. C'est 94, l'arrivée de Jean-Marie Colombani et avec Alain Minc. Pourquoi ensuite être sur un style et un ton qui est très proche du pamphlet, effectivement, et très directement désobligeant pour ce que ça influe sur l'analyse qu'on peut avoir du journal tout entier.
Donc vous faites référence d'abord,
Pierre Péan,
puisque c'est un des thèmes qui nous est reproché, où on parle de la vie des pères. Peut-être c'est ça à quoi vous faites référence essentiellement. Si nous avons parlé des pères, D'abord, on ne parle pas du père de Minck, parce que jamais Minck a parlé de son père dans son travail, dans son action. Alors que Edwy Plenel, dans tous ses livres, je dis bien dans tous ses livres, il y a au minimum un chapitre pour parler de son père. Dans le dernier livre, tout tourne autour de son père. C'est pas moi qui le mets sur la place publique. Quand il parle à la télévision, il parle de son père. Donc, j'estime que déjà pour Plenel, on peut relire ses livres et avoir une autre vision de ses livres. Ça, c'est le premier. Et en ce qui concerne Monsieur Colombani, c'est lui-même aussi qui, dans les infortunes de la République, justifie. Oui, mais attendez,
vous êtes déjà exprimé la suite. Je suis pourquoi pas. Mais en quoi est-ce que c'est un témoignage à charge contre ce qui serait la dérive d'un journal comme Le Monde? En quoi est-ce que c'est à charge?
Mais attendez, ce facteur-là?
Oui.
Mais c'est parce que c'est justement un élément d'explication sur leur attitude par rapport à un certain nombre de prises de position.
Vous n'êtes pas votre père, Pierre Péan, vous n'êtes pas votre père, et je ne suis pas mon père.
Bon. Moi, j'ai jamais écrit un mot sur mon père, j'ai jamais expliqué. Oui, mais... Si vous voulez que l'alliance... Le problème, c'est que M. Colombani et M. Plenel justifient leur alliance et leur complicité intellectuelle et politique par le destin de leur père, par l'histoire de leur père et des relations de leurs deux pères avec la France. Donc, à partir de là, ça devient un élément public, surtout quand, par ailleurs, on s'en prend aussi violemment que M. Colombani l'a fait à M. Jospin et au passé pacifiste et voire collaborationniste passif, en tout cas, du père de M. Jospin. Donc, si vous voulez, on ne peut pas à la fois, à ce point, prendre les pères comme bouclier, comme explication finale d'un engagement professionnel et en même temps, dire « Ah, c'est des torrents de boue » parce qu'on essaye d'établir simplement une vérité factuelle sur qui était chacun des deux pères de Colombani et Plenel.
Alors, pour terminer cette première partie, nous voudrions vous faire écouter le témoignage recueilli tout à l'heure de Michel Noblecourt, qui lui-même ne souhaitait pas venir dans ce débat, mais qui est le directeur de la Société des rédacteurs du Monde.
Le président. Et qui commentait la réunion du conseil de rédaction qui a eu lieu hier après-midi au Monde.
Comité de rédaction.
Nous avons eu au cours de ce comité de rédaction un débat qui a été très 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 riche, très très dense, empreint de beaucoup d'émotions, pour examiner le livre de Pierre Péan et Philippe Cohen sur Le Monde, pour prendre la mesure de l'attaque qui est d'une très grande violence qui est portée contre notre journal et pour exprimer la volonté de la rédaction de défendre son honneur de manière solidaire parce que l'on considère que nous sommes l'objet de calomnies, d'attaques extrêmement vives contre notre déontologie, notre probité, nos pratiques, nos valeurs, et donc nous allons effectivement organiser une riposte sous différentes formes à cette attaque. Si nous avons bien vu que les cibles principales des auteurs étaient effectivement Jean-Marie Colombani, Edwy Plenel et Alain Minck, nous considérons que au-delà de ces trois personnes qui font l'objet d'attaques qui ont à plusieurs égards un caractère ignominieux, c'est toute la rédaction et même toute la collectivité du Monde qui se trouve agressée.
Vous avez été cité vous-même à deux reprises dans le livre, une fois pour votre opposition au fait qu'un papier sur le révélation sur le passé trotskiste de Jospin ait été signé par la rédaction du Monde, et d'autre part parce que vous seriez exprimé contre l'entrée en bourse du Monde. Vous désirez répondre à ces deux points?
Écoutez, les auteurs ne sont pas à une contradiction près, puisque ils décrivent la Société des rédacteurs que je préside comme une sorte d'ectoplasme, de ventre mou qui est complètement subordonné, pour ne pas dire même plus domestiqué par la direction, et qui donc pratique ce qu'ils appellent le béni-oui-ouisme systématique. On trouve cette formule dans le livre, et en même temps ils nous prêtent des prises de position allant directement à l'encontre de ce que la direction a voulu mettre en œuvre. Donc on est en pleine contradiction. Alors sur le premier point, c'est tout à fait exact que effectivement j'avais réagi par rapport aux formes de la publication de cette enquête, pas du tout sur le fond, mais sur les formes. Bon, mais ça c'était une question, je dirais, tout à fait interne. Sur le second point qui concerne l'introduction en bourse, ce qui est écrit à mon propos est totalement faux, puisque je n'ai jamais pris publiquement position contre l'entrée en bourse. J'ai au contraire soutenu ce projet, je l'ai défendu devant mon conseil, je l'ai défendu devant la rédaction, et la rédaction, là, au cours d'une assemblée générale, a approuvé le principe d'une introduction en bourse dans un délai courant jusqu'au mois de novembre 2003.
Si on en croit une dépêche de l'AFP tombée hier soir, un certain nombre de points précis auraient été abordés pendant cette réunion d'hier après-midi, notamment la distribution du quotidien, la question des gratuits, de Jean-Marie Messier, etc. Vous êtes satisfait dans l'ensemble des réponses apportées par messieurs Colombani et Plenel?
Mais nous avons hier après-midi, effectivement pendant 5 heures, nous avons tout mis sur la table. Hein, donc nous avons eu un vrai débat, ce qui dément au passage la réputation qui nous est faite dans le livre d'être une rédaction qui vit dans un climat de peur et qui serait soumise à un système véritablement totalitaire, dictatorial. Donc nous avons apporté un démenti cinglant à ces affirmations. Et nous avons effectivement réfuté les accusations qui étaient contenues dans le livre, aussi bien en ce qui concerne Jean-Marie Colombani et Louis Plenel que les autres rédacteurs qui ont été évoqués également dans cet ouvrage. Donc nous sommes effectivement satisfaits à la fois de la façon dont ce débat s'est passé, puisque effectivement ça montrait que nous avions la liberté et la maturité suffisante pour débattre entre nous de ces sujets, et par ailleurs les réponses qui ont été apportées par Jean-Marie Colombani, par Edu Plenel étaient tout à fait satisfaisantes et correspondaient effectivement au sentiment de la rédaction.
Voilà, Michel Noblecourt, qui est le président de la Société des rédacteurs du Monde. Et donc, nous sommes toujours avec Philippe Cohen et Pierre Péan pour la face cachée du Monde aux éditions Les Mille et Une Nuits. Et donc, va pouvoir commencer aussi donc cette deuxième partie de l'émission où quelques confrères et un historien vont vous poser des questions et soumettre, entre autres, thèse aperçue dans cette première partie en débat. Je voudrais donc saluer Jacqueline Hénard, journaliste allemande à Paris, puis Cause Commune, 19h30. On a carrément fait les choses, vous savez, comme il ne faudrait pas faire du tout. Il y a deux collaborateurs de France Culture autour de cette table, Pierre Péan et Philippe Cohen. Il y a donc Jacqueline Hénard, très bonne émission, 19h30, Cause Commune le jeudi, sur l'Europe. Et puis il y a Alain Gérard Slama, éditorialiste au Figaro, qui est également... fait un billet tous les matins chez Nicolas Demorand à 8h moins le quart. Et puis, il y a également John Henley, qui lui est correspondant à Paris pour The Guardian. Et donc Patrick Evenot, historien, maître de conférence à Paris 1, qui avait publié Le Monde 1944-1995, histoire d'une entreprise de presse au Monde Édition, ainsi qu'un autre livre sur Le Monde chez Odile Jacob. Avant de vous céder la parole, peut-être Patrick Evenot, il nous manquait du temps avant le journal pour commenter la déclaration de Michel Noblecourt ou le texte Philippe Cohen.
Très rapidement, parce que, si vous voulez, le problème on est confronté, quel est-il ? Il est que, ça vous pouvez lire et relire ces 600 pages sur Le Monde. On s'est efforcé toujours de distinguer la direction de la rédaction. Il y a très très peu d'attaques contre des journalistes du Monde. Il y en a quelques-unes parce que sur des cas précis, si vous voulez, d'articles. Mais en gros, nous n'avons jamais mis en cause l'honnêteté, la probité, si vous voulez, l'honnêteté intellectuelle de la rédaction du Monde. Donc là, je crois que on démarre très mal parce qu'on part sur un faux procès.
Si oui, vous enfin, on est à côté de la plaque. Trop tard.
Ah non.
En même temps,
non mais
les faits.
Il n'y a pas de réponse sur les faits.
Non, mais il n'y a pas de réponse.
Là, il y a pour le moment, ça fait une semaine quand même que.
Moi, je sais un peu ce qui s'est passé hier. Je sais un peu ce qui s'est passé pendant ces 5 heures sur les points principaux, c'est-à-dire sur les, que ce soit sur l'affaire des NMPP, sur l'affaire Vivendi, sur l'affaire de l'Express, sur l'affaire qui pose problème sur la confusion des genres. Hein, c'est ça. J'ai eu un certain nombre de gens de la rédaction qui m'ont dit qu'il n'y a pas eu de réponse satisfaisante. Mmh. Alors, ce qui est normal, qu'ils sont une forteresse, là, ils se sentent en forteresse assiégée, qu'ils réagissent de façon collective, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va sortir après. C'est-à-dire c'est que les faits qui vont sortir, si on a fait des erreurs, on les attend, les contestations.
Et donc, en fait, vous attendez le procès.
On attend le procès, et c'est là aussi, il y a un procès qui est annoncé aussi, de la société rédacteur elle-même, sans exclure un recours en justice. Déjà. Donc, on verra bien, je veux dire, on sera sur la base des faits.
Un dernier mot, simplement, pour préciser que la réunion qui a duré 5 heures hier n'a pas suffi, selon moi aussi les témoignages que j'ai eus, à répondre à toutes les questions des rédacteurs. Et donc, il a été décidé qu'il y aurait une autre réunion pour que la direction, à nouveau, puisse répondre aux questions des rédacteurs.
Enfin, en tout cas, il est au moins démenti dans le communiqué le climat de peur dont vous dites qu'il gouverne le journal. Bon. Patrick, je vais passer la parole à Patrick Evenot, que vous épinglez, il faut le dire, entre autres page 158, bon, pour dire que Patrick Evenot serait un peu l'historien officiel, enfin vous avez vu comme moi Patrick Evenot, du Monde. Je vous donne la parole sur quels sont les points que vous voudriez relever. Nous sommes bien loin d'avoir évoqué toutes les questions que le livre agite, tant sur le plan personnel, hein, concernant les biographies professionnelles d'Alain Minc, d'Edoui Plenel ou de Jean-Marie Colombani, mais c'est vrai qu'il nous intéressait aussi la question au fond de la financière et de l'évolution d'un groupe de presse. Patrick Evenot.
Merci de me donner la parole. Bon, je précise les choses tout de suite. Je ne suis pas ici pour défendre Le Monde, ni ses journalistes, ni la direction. Je crois que c'est aux journalistes de répondre s'ils ont envie, à la direction de répondre comme ils voudront. Et je crois que, in fine, ce sont les lecteurs qui décideront de savoir si Le Monde est toujours digne de leur achat, de leur abonnement ou de ce genre de choses. Donc, Pierre Péan et Philippe Cohen me citent, ils citent un de mes deux livres, Le Monde, histoire de l'indépendance de chez Odile Jacob, paru en 2001, mais ils ne citent jamais ma thèse, parce que effectivement, ma thèse est un peu plus, disons, sérieuse que leur livre. Hein. Faut être clair, d'un point de vue d'historien, nous avons là affaire à des gens qui s'appuient essentiellement sur des témoignages oraux, c'est-à-dire très rarement sur des sources incontestables et généralement sur des témoignages partiels ou des témoignages, partiaux.
Bon. Reconstitués, il y a des dialogues reconstitués.
Je n'irai même pas là-dessus parce que c'est un genre journalistique, pourquoi pas, après tout, quand on a une conversation avec quelqu'un, lui faire dire des choses, c'est pas vraiment un problème. Mais on pourrait prendre toute une série d'exemples d'informations qui sont parcellaires, et parce qu'elles sont parcellaires, elles sont évidemment controuvées, voire manipulatrices. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, ils disent que les articles du Monde sont raccourcissent de jour en jour ou raccourcissent, etc. Bon, en fait, c'est pas vrai. Quand vous mesurez les articles du Monde, depuis 30 ans, la pagination rédactionnelle hors publicité du Monde est passée de 20 à 35 pages en moyenne quotidienne par jour. Donc c'est-à-dire qu'elle a presque doublé. Alors dire que les articles raccourcissent, c'est un peu embêtant, vous voyez, c'est une contre-vérité. Dire que Le Monde n'a jamais autant dépendu de la publicité, c'est faux. C'est complètement faux. Le Monde, actuellement, les chiffres publiés l'année dernière, donc pour 2001, je ne vous parle pas de 2002, moi je ne les connais pas, je travaille sur les chiffres publiés. Les chiffres publiés montrent que actuellement la publicité représente 25% du chiffre d'affaires du journal, alors que sous Beuve-Méry, à partir de 1947, et sous Beuve-Méry et sous Jacques Fauvet, pendant 30 ans de suite, la publicité ne descend jamais en dessous de 40%. Des recettes totales du journal. Et même au moment du départ de Beuve-Méry en 1969, la publicité atteint 59% du chiffre d'affaires total du journal. Donc, c'est-à-dire trois fois plus presque que maintenant. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Enfin, je pourrais comme ça multiplier les exemples. J'en ai un certain nombre d'autres. Ça commence dès la première page, je termine là-dessus. Ça commence où on dit que Hubert Boeuf-Méry a été fasciné par le rayonnement de l'Allemagne d'avant-guerre, qu'il a été autant jusqu'en 1942, alors qu'il a démissionné en 1938. Enfin, bref, il y a toute une série de choses qui sont fausses d'un point de vue historique. Alors, après ça, le reste, les affirmations. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un problème, parce qu'ils ont fait un coup médiatique merveilleux. Ils ont très bien monté leur affaire. Ils ont sevré les journalistes de façon à ce qu'ils ne puissent pas lire le livre et faire une contre-enquête
avant d'interviewer. D'accord, ça fait deux nuits blanches.
Oui, mais vous n'avez pas eu le temps de faire une contre-enquête, vraiment.
Objectivement, non. Absolument. Disons franchement que nous n'avons pas eu le temps de faire une contre-enquête, évidemment. C'est vrai à peu près d'ailleurs de tous les livres que l'on lit, mais non, mais que c'est pour ça qu'on organisait cette table comme ça.
Tous les journalistes avec qui je parle.
Je ne vais pas mentir et dire que j'ai rappelé toutes les sources.
Tous les journalistes indépendants. Des différents protagonistes avec qui on parle disent oui, on a eu le livre lundi ou mardi, il a fallu s'enquiller les 630 pages en vitesse et évidemment on a le temps de rien vérifier. Ça, c'est une opération médiatique tout à fait exceptionnelle et d'une très grande rentabilité et pour les auteurs et pour les éditeurs.
On n'a pas exigé, si vous voulez, que les journalistes passent des nuits blanches et qu'ils fassent subito des articles. Ça, c'est pas, vous ne pouvez pas quand même dire que nous, on a orchestré les choses de manière à ce qu'ils aient 3 heures pour lire le livre. Je voudrais juste répondre très court sur les. Alors, quand on dit les articles raccourcissent, et vous nous opposez le fait qu'il y a plus de textes dans le monde, mais ce n'est pas du tout contradictoire. C'est les articles qui raccourcissent. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus ou moins de textes dans le monde. Ça veut dire qu'on traite, si vous voulez, on se cale sur un format, qui est d'ailleurs un peu un format de plus en plus d'époque, mais bon, pour moi, le monde, ça devait rester une exception, si vous voulez. On se cale sur un format d'articles de plus en plus courts, dans lequel on va de plus en plus vers le people et vers l'anecdotique.
C'est-à-dire que vous dénoncez l'idée.
C'est pas pareil que le nombre de pages.
Vous dénoncez l'idée qu'il faut mettre, donc, défendu par Dupénel, qu'il faudrait mettre l'information. En scène.
Ah oui, enfin.
Mais ça, c'est pas la même idée.
C'est une autre question. Là, il s'agit de. Voilà, la réponse est très simple sur raccourcissement. Oui, les articles raccourcissent. Et néanmoins, il y a plus de pagination dans le monde. D'ailleurs, je me réfère à Boeuf-Méry, de ce point de vue-là, qui, lui, considérait qu'il valait mieux, il valait mieux moins, mais mieux. C'est souvent ce qu'il disait. Deuxième chose, en ce qui concerne la publicité, vous dites qu'elle n'est que 25% du CA du journal en 2001. Et pour cause. C'est une année noire dans toute la presse. Alors vous prenez comme référence, évidemment, le moment le plus creux depuis 1993 des recettes publicitaires. Et vous dites, voyez, c'est une contre-vérité. Attendez, je crois qu'il faut quand même, vous êtes historien, professionnel, il faut quand même avoir des arguments un petit peu plus sérieux que celui-là.
Vous voyez, vous manipulez encore les chiffres parce que depuis 1993, la publicité a considérablement remonté jusqu'en 1999 et 2000. Et en 2001, elle n'a baissé que de 10%. Elle est encore le triple de celle de 1993. Le chiffre d'affaires est publié tous les ans dans le monde. Vous n'avez qu'à lire les chiffres, ce n'est pas difficile.
Antoine Guillot.
Oui, je voulais savoir si la publicité comportait également une des choses que vous dénoncez dans votre livre, les encarts publicitaires de publi-reportage sur certains pays, par ailleurs critiqués fortement dans les pages du Monde. À ceci près que quand on a reçu l'Express qui donnait les bonnes pages,
il y a quelque chose sur le Congo. Excusez-nous, mais on n'est pas.
Non, mais est-ce que ces chiffres de la publicité comportent ce genre de supplément également?
Écoutez, je crois que oui.
Je peux répondre. Oui, bien Patrick sûr. Les suppléments, ça fait partie. Alors, comme la plupart des lecteurs, quand on a le journal, on prend le supplément, on le met directement à la poubelle. Bon, c'est un autre problème. Mais le lecteur n'est pas dupe du tout. Hein. Vous n'êtes pas dupe, ni moi non plus. Mais les suppléments font partie.
Et puis c'est marqué, en plus.
Mais oui, c'est marqué. C'est bon, c'est Inter France Média, c'est signé, ça n'engage pas la rédaction, etc. C'est marqué. Bon. Les suppléments, ils ont été introduits par Boeuf-Méry, là, encore une fois. Le premier date de 1954 sur la Turquie, qui était à l'époque une Turquie qui n'était vraiment pas démocratique. Et c'est Boeuf-Méry qui l'a accepté et qui l'a fait faire. Et là, c'était même encore pire parce que je me souviens très bien d'un certain nombre de journalistes qui ont participé à ce supplément, puis à quelques autres parce qu'il y en a eu beaucoup ensuite. Et ça fait partie. Pour Boeuf-Méry, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de problème pour Colombani. Il y a une séparation entre. Vous permettez, je termine. Il y a une séparation entre le business et la rédaction. Et ça pose pas de problème. On gagne de l'argent d'un côté et ça n'empêche pas de dénoncer, si on veut, un régime de l'autre.
Pierre Péan.
Sur ce, il y a un petit chapitre sur les publi-reportages et on montre surtout le décalage qu'il y a eu entre certaines promesses qui ont été faites d'arrêter de faire des publi-reportages et tout ce qui est autour, c'est-à-dire que comment les gens vont recruter le Bénin, les chefs, et qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent le monde, ils vendent l'intégrité du monde. C'est ça qu'on monte et comment ça pose des problèmes à l'intérieur de la rédaction.
Tandis que vous dites qu'au fond, il y a un papier de Fotorino qui met un temps fou à être publié parce qu'il ne serait pas...
C'est pas sur la même, même chose.
Mais par rapport à l'Afrique, par exemple.
Donc c'est ça que nous voulons montrer dans ce petit chapitre qui est Inter France Média. En plus, c'est une société très, très opaque, etc. Et comment il y a des gens qui vont voir les chefs africains en se disant des journalistes du monde. C'est ça que ça aboutit comme ce genre de publicité.
Oui, là c'est encore...
Jacqueline Hénard.
Je dois dire que je ne comprends pas très bien cette échauffourée que vous venez d'avoir, Philippe Cohen et Patrick Evenot, autour de la part de la publicité dans les rentrées financières d'un journal, 25%. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est
non?
Bien
je pas
est-ce, qu'il
que
est-ce qu'il en
non,
faudrait pas plus? Non,
non, non, c'est sur les chiffres. C'est pas le problème. C'est sur le chiffre. J'avance comme hypothèse d'explication.
Est-ce qu'il y a quelque chose de honteux à gagner son argent avec
non,
la
non, non, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Hein, mais c'est pas moi qui parlais de ça. C'est Monsieur Evenot. Donc moi, je crois pas du... Pour être clair, on n'a pas du tout fait ce genre de reproche au Monde. On croit pas du tout, forcément...
Au contraire, moi, je trouve que Le Monde fait toujours un peu journal officiel parce qu'il manque de publicité.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faudrait qu'il y ait plus de publicité dans les journaux français, ça serait bien.
John Henley, The Guardian.
Bah oui, bah moi, j'assiste un petit peu avec stupéfaction parce que j'avoue que je trouve que tout cela montre combien le journalisme, la presse en France... a un sens incroyable de sa propre importance. Et que, c'est clair que pour Le Monde de reprendre, c'est des attaques, le livre, les recherches que vous avez faites, bien sûr, sont complètement légitimes, et c'est complètement légitime de s'attaquer à un journal qui se présente comme le journal de référence de la France. Mais pour moi, le problème, c'est, il faut mettre un petit peu dans son contexte, c'est que si Le Monde, par exemple, prend parti, si Le Monde mène campagne pour des candidats et que ça choque, c'est parce que on est dans une tradition de presse française qui est, nous on a l'habitude de ce genre de choses. Nous, on a une presse où je trouve la presse anglo-saxonne où vraiment tous les coups sont justifiés, et je pense que là on assiste vraiment à quelque chose de très révélateur sur une conception en fait fondamentalement élitiste du rôle du journalisme et de la presse en France.
Vous avez une idée là-dessus, vous, Jacqueline Hénard? C'est quoi? C'est au fond qu'il y aurait un centralisme trop grand en France et que, à la fois, Le Monde, vécu comme une institution à Paris, concentre tous les regards, tous les commentaires, ce qui n'est pas le cas en Allemagne.
Ça, c'est une idée que j'ai sur la qualité de l'information en France, qui est beaucoup moindre, parce que moi, ce que je cherche dans un journal, c'est quand même l'information et les faits. Et ça, j'ai beaucoup de mal à les trouver d'une façon générale
au fond,
dans les journaux.
C'est pas un très
français.
Bon journal. Moi j'achète non. pas Le Monde avec plaisir. Hein.
Non, je dois dire, je l'ai lu par obligation, comme beaucoup.
Alors,
de
si
gens,
vous vous y mettez aussi, évidemment. On nous a pas entendu, Alain Gérard Stamin.
Oh, moi, je suis heureux d'être invité ici.
Mais vous n'êtes, comment on n'a pas parlé de votre livre, que vous en parlerez chez Jean Leroy mardi,
écoute,
vous
n'allez pas être... Là, vraiment, je ne viens pas en illustre Gaudissart de mes propres écrits. Non, mais pour tout simplement poser une question de principe que Pierre Péan connaît bien, nous nous sommes trouvés déjà confrontés sur ce sujet, c'est que j'ai assez critiqué moi-même et combattu Le Monde chaque fois qu'il veut faire la morale, chaque fois qu'il participe de cette idéologie dominante du politiquement correct, avec la vocation du thème de la transparence, avec l'utilisation tout de même assez énergique de la République des juges, avec des campagnes à un moment donné particulièrement dures, particulièrement sévères contre Jacques Chirac et qui procédaient d'un engagement certain. Mais en même temps, il s'agissait là d'une bataille politique, d'une bataille de contenu sur laquelle je voudrais pouvoir, et je ne m'en suis jamais privé, répondre au Monde sur le plan des contenus. Je ne peux pas accepter l'idée qu'on utilise des procédés qui sont ceux que je réprouve pour attaquer Le Monde. Et c'est-à-dire la mise en cause des personnes. Vous pensez bien que nous ne serions pas à cette tribune et que ce livre ne ferait pas le tabac qu'il fait s'il s'agissait seulement de critiquer une ligne éditoriale, hein? Parce que la ligne éditoriale de Beuve-Méry, parlons-en, son anti-atlantisme utilisant des faux. la ligne éditoriale de Jacques Fauvé et les articles de tel ami, c'est un ami, mais enfin bon, que je ne citerai pas, sur le Cambodge. Bon, est-il besoin d'y assister? Donc, s'il s'agissait seulement de critiquer une stratégie éditoriale, bon, là, je dirais rien. Mais, en fait, ce sont les arguments ad hominem qui me gênent. C'est l'insinuation selon laquelle certaines techniques entrepreneuriales également, des comportements d'entreprise, sont mises en cause en mettant en question l'honnêteté de ceux qui les utilisent. Et là, ça m'inquiète pour deux raisons. La première, c'est le recours croissant dans notre pays est général à l'argument ad hominem. Et la surenchère des critiques. Parce que moi aussi, je pourrais aussi aller chercher des puces à votre éditeur, par exemple. Pourquoi pas? Et faire un livre pour dire que les auteurs publiés chez cet éditeur, eh ben, obéissent à des stratégies obscures. Ce n'est pas du tout mon propos et ce n'est pas ce que j'ai dit. Et puis, il y a aussi l'autre chose, c'est que je vois de plus en plus les journalistes aujourd'hui, quand ils ont des idées, quand ils ont des sujets de reportage, quand ils ont des thèmes, se les réserver pour eux-mêmes et en faire des livres. Ils ne les donnent plus à leur journal. Alors voilà qui aggrave la crise de la presse. Et quand ces livres sont en plus destinés à taper sur la presse, alors là, on ne tire plus évidemment sur une entreprise prospère et gagnante, car c'est pas du tout ce que vous avez fait, on tire sur une ambulance, c'est la presse dans son ensemble que je vise ainsi, et pas seulement Le Monde.
Philippe Cohen.
Oui, alors, je suis très sensible à la dernière question que vous venez de poser. Moi, je cherche, j'ai cherché vainement à faire des articles sur Le Monde, des articles critiques. Hein. Ça n'a pas été possible, y compris dans mon journal, Monsieur Slama, et y compris dans le vôtre.
Marianne.
Y compris dans le vôtre, puisque j'ai transmis, il se trouve que puisque vous en parlez, j'ai transmis en défense de Dominique Strauss-Kahn, au moment où il était pris en chasse par justement le journal Le Monde, une tribune que votre quotidien a refusée après débat dans sa direction, parce que ça mettait en cause Le Monde. Donc, de ce point de vue-là, moi, je veux bien qu'on... Si les journalistes publient des livres, au lieu de publier des enquêtes dans les journaux, c'est parce qu'il y a certaines enquêtes qu'on ne peut pas publier dans les journaux. Moi, je vous défie tous autour de la table, de citer plus de 3, au cours des 20 dernières années, de citer plus de 3 ou 4 articles réellement de fond, réellement critiques sur Le Monde. Hein? De la même manière, je pourrais prendre, mais c'est aussi vrai sur les autres journaux, c'est-à-dire que le système médiatique fonctionne quand même malgré tout avec, de ce point de vue-là, il y a une montagne sacrée qu'on ne peut pas toucher et je ne vois pas comment le faire autrement que par un livre. La deuxième réponse que je voudrais faire, c'est sur votre première, objection. C'est-à-dire, vous dites en gros quoi ? Vous dites, bien écoutez, qu'on critique Le Monde sur le plan politique et idéologique, tout va bien, mais qu'on aille fouiller dans les poubelles ou qu'on aille regarder derrière ce qui se passe, eh bien non, ça je ne l'accepte pas. Eh bien, moi je n'accepte
pas. Quoi, sur quel thème, par exemple, genre Slama,
L'histoire de la presse gratuite. Je m'imagine, rôle que je ne me souhaite sous aucun prétexte et surtout pas dans un journal dit de référence, je m'imagine responsable de l'entreprise d'un journal. Je vois arriver la presse gratuite. Qu'est-ce que je fais? J'essaie évidemment et très logiquement d'utiliser cette presse gratuite et de m'entendre avec elle de façon à essayer d'obtenir une synergie. Si je m'aperçois que cette presse gratuite ne joue pas le jeu, à ce moment-là, je l'attaque. Il n'y a rien là qui ne me paraisse absolument normal.
Non, la réponse est très simple. Hein, si vous voulez, c'est que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une discussion avec un certain nombre de groupes de presse, en effet. Donc, c'est tout à fait compréhensible que c'est son choix, après tout, que M. Colombani décide à un moment donné, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on aille sur la presse gratuite, comme ça on sera moins menacé par sa concurrence. C'est tout à fait légitime et d'autres groupes de presse l'ont fait à l'étranger, là n'est pas la critique. Le problème c'est que si vous faites ça, vous pouvez pas enlever votre costume de président du Monde, prendre votre costume d'éditorialiste du Monde et dire c'est un scandale, c'est un problème de principe, la presse gratuite, c'est pas possible. C'est ce qu'a fait, c'est cette duplicité qui est absolument intolérable et inacceptable.
Mais c'est vous qui la voyez, la duplicité. Mais,
elle est absolue.
Dès lors que la preuve est faite du caractère dangereux
non,
de cette
presse
gratuite,
la négociation continue après l'éditorial.
Qui refuse de coopérer, il est absolument normal à ce moment-là que le journal se retourne contre elle.
Excusez-moi, c'est une contre-vérité, puisque après l'éditorial, est-ce excusez-moi, après l'éditorial, la négociation continue. Donc l'éditorial est un moment de la négociation. Ça n'est pas la marque d'une rupture, pas du tout. D'ailleurs, la conclusion de tout ça, c'est que le 20 minutes a été obligé de s'imprimer chez Le Monde à un prix alors là, qui était assez cher, et beaucoup plus cher que son impression tous les autres jours.
Patrick Evenot.
Je ne vais pas revenir sur cette affaire parce que moi, je ne réponds pas pour Le Monde. Mais encore une fois, quand Philippe Cohen dit, par exemple, qu'on ne peut pas écrire un article dans la presse sur Le Monde, c'est quand même assez étonnant parce que c'est le journal en France sur lequel on écrit le plus depuis maintenant 50 et quelques années, hein, depuis décembre 1944.
C'est pas le premier livre en plus.
C'est pas le premier livre. C'est pas le premier livre qui cherche à descendre Le Monde. C'est pas le premier pamphlet. C'est pas le premier... Des articles, il y en a quasiment... tout le temps, hein. Et alors, y compris chez Marianne, enfin, qu'on me fasse pas rire, quand Jean-François Kahn, c'est une de ses spécialités de descendre le journalisme, alors que Philippe Cohen puisse pas écrire chez Marianne, le problème, c'est que Philippe Cohen, il veut... Bon, ça va pas, ça, il y a quand même des choses qu'il faut... Il faut
John arrêter. Henley, The Guardian.
Moi, je suis tout à fait prêt à croire que c'est impossible de publier des papiers critiques sur Le Monde. Moi, ça m'avait choqué un petit peu, même après publication...
Des papiers dans la presse, donc.
Mais, oui, hein, tout à fait, mais même après publication de votre livre, je trouvais que c'était assez difficile de trouver des papiers critiques sur Le Monde dans les autres journaux. Par exemple, et à la radio, en plus, ça m'avait vraiment frappé. J'écoutais France Inter l'autre matin, je crois que vous étiez invité. On parlait du livre, on parlait des principes, on parlait beaucoup de grands mots, mais il n'y avait pas un mot du tout sur les vraies charges, sur les détails.
Mais John Henley, le journalisme est un métier précaire et on est bien employé au Monde. Pourquoi on regarde l'avenir?
Alors, je voudrais poser justement une question. Moi, je relève un mot, par exemple, page 223, sur l'imposture du journalisme d'investigation, avec la mise en scène de l'information. Et puis, je relève plus loin, page 234, une phrase que je voudrais vous citer et que j'aimerais que vous explicitiez assez rapidement. Mais vous écrivez au fond, vous dites « Le Monde fustige pour frayer son propre chemin parmi les puissances du monde néo libéral. Vas-y toi, dit Pierre Perrin à Philippe Cohen.
Non, mais il le ferait avec beaucoup mieux que moi. Ce qu'on veut dire par là, c'est difficile, vous prenez une phrase comme ça au milieu qui vient après tout un paragraphe. Disons que c'est ce basculement, toute l'histoire, tout le livre au fond, c'est l'histoire de ce basculement. C'est-à-dire comment le monde journal devient le monde puissance et qui nous des relations qui sont au fond des relations d'intimidation. D'ailleurs, le pire, c'est que les dirigeants du Monde le reconnaissent. Ils disent « Le Monde fait peur et c'est une bonne chose ». Il y a quand même une phrase...
Vous dites que le Monde qui fait froid dans le dos, se réclame d'un dogme de l'indépendance, comme Beuve Méry pouvait en parler, qu'au fond, ça n'est pas le cas. Pierre Péan.
Non, là, je suis un peu perdu dans le... Ça va dans tous les sens, mais parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'investigation, un des thèmes, je suis parti surtout là-dessus, l'investigation est devenue une arme, et qu'on a mis l'investigation, on l'a mis en scène, on a mis, et ça là je reviens sur ce que disait M. Slama, ça c'est un des thèmes essentiels de ce jour, que le journaliste d'investigation a été promu, on en a fait des unes, et ça a été, la une est devenue place de grève, et ça c'était pas du tout avant, et sans que le site puissent s'y retrouver. On a feuilletonné, par exemple, un certain nombre d'instructions qui fait que le citoyen attaqué n'a aucun moyen de se défendre. Voilà, moi,
mais quand vous parlez d'abus de pouvoir, c'est quand même la formule est tout de même très, très, très grave. Hein. Abus de pouvoir, le monde, que je sache, ne semble pas mettre en péril la démocratie française.
On ne l'a pas dit.
Non, hein non mais la question que je vous pose, Patrick Evenot.
Bah, si, ils n'ont pas le mot abus de pouvoir, mais ça, c'est pas... Mais on voit bien qu'ils épousent des querelles. Enfin bon, il y a deux livres. Hein. Il y a deux livres dans ce livre. Il y a le livre écrit par Pierre Péan, qui, en gros, essentiellement, toute une série de reportages sur un certain nombre d'affaires, etc. Et qu'est-ce que fait Pierre Péan? Il épouse les querelles de la vieille Mitterrandi, hein, les querelles de Michel Charras, les querelles de Roland Dumas, etc. En fait, ce qu'il regrette, lui, c'est le monde de Jacques Fauvet, le monde de la fin des années 70, le monde qui était inféodé à François Mitterrand, qui servait les intérêts directs de François Mitterrand.
Et pour un historien, on relève là quand même complètement du procès d'intention, là.
C'est en vous lisant qu'on voit ça. Et puis, il y a Philippe Cohen. Philippe Cohen, ça se voit, c'est bon, il a essayé de travailler plus sur l'économie, c'est normal, c'est son job, sauf qu'il est souvent fâché avec les chiffres. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui l'embête, lui, c'est les libéraux. Hein. C'est la mondialisation, c'est les libéraux. Alors évidemment, c'est Minc, etc. C'est, bon, moi, ça ne me dérange pas. Mais en fait, bon. c'est ça.
Précision et utile,
là,
hein.
Bah oui, non mais oui. Moi, ça ne me dérange pas que vous soyez embêté par Minc ou que Minc soit embêté par vous. C'est pas mon job. Moi, je m'en moque. Bon, le problème, c'est que la rencontre entre les deux, elle est où? Elle est au fait que ces gens-là ne supportent pas que le monde les dérange. Ces gens-là, comme beaucoup.
Et que je vous cite quand même ce que vous me disiez, et que vous dites ça dans l'avertissement, et que vous dites, au fond, c'est une imposture moderne, le monde présente tous les traits de l'imposture, même s'il s'agit d'une imposture moderne, c'est parce que celle-ci entraîne une véritable dégradation de la vie démocratique dans ce pays que nous avons décidé de lever le voile à son sujet, en somme, d'investiguer sur l'investigateur.
Ce qu'ils veulent, je quand voudrais même, finir, s'il vous plaît, c'est un monde tel qu'ils le rêvent à leur image. Ils disent même parfois, rendez-nous notre monde, leur monde à eux. Ils veulent leur monde. Ils souhaitent un autre monde, effectivement. C'est ce qu'ils cherchent à faire.
Pierre Péan.
Non mais d'abord, je pense que vous avez quitté un peu le ton d'historien que vous aviez au début pour faire un procès d'intention.
Pas du tout.
Nous cherchons pas du tout à réinstaller notre monde. Nous estimons qu'il a dérivé. Et à vous écouter, on a le sentiment qu'on est illégitime à faire.
Pas du tout.
Moi, j'ai l'habitude de faire des enquêtes sur tous les pouvoirs. On m'a jamais contesté la légitimité de le faire.
Et là,
manifestement, il est illégitime. Il y a quelque chose qui d'attaquer.
Vous avez fait un livre sur TF1.
J'ai fait exactement la même chose sur TF1. On m'a jamais attaqué sous cet angle-là. Et c'est exactement le même système. La thèse était la même, c'était même clair dans le titre, c'est TF1, un pouvoir. C'est exactement le passage d'aller au-delà du contre-pouvoir, qui est une dérive qui me semble essentielle et qui me semble la dérive principale de ce journal.
Jacqueline Hénard. Oui. Et Alain Gérard-Slamet ensuite. Jacqueline Hénard.
Je crois que ce qu'on voit bien dans ce que vous reprochez, Patrick Evenot, à Pierre Péan, c'est que le Monde remplit une fonction identitaire en France, et plus que d'autres journaux. Le Monde est quelque chose de constitutif de sa propre conscience politique, de sa propre place dans l'espace public. Et c'est pour ça que vous êtes tellement vexé que le Monde ait changé. Apparemment, les lecteurs, ou un nombre croissant de lecteurs, ça, c'est ça qui me fascine, ne sont pas dérangés du fait que le Monde fait des titres sur 4 colonnes, extrêmement dogmatiques.
Parlez-en aux médiateurs du Monde, vous verrez ce qu'ils reçoivent comme courrier à chaque fois.
Les gens l'achètent quand même.
Oui, mais bien sûr, parce qu'ils
pourraient acheter le Parisien.
La thèse de Pierre Péan et de Philippe Cohen, c'est qu'ils l'achètent de moins en moins. En plus, vous dites qu'ils l'achètent de moins en moins. Ce que contredit Patrick Evenot.
60 000 lecteurs en 6 ans.
Et vous vous dites que ça n'est pas...
Vous dites qu'ils sont gratuits, ces lecteurs, notamment Air France.
C'est les chiffres vérifiés.
Attendez, moi j'ai tous les chiffres aussi bien que vous. Je sais autant les analyser. La vente en kiosque a diminué. Vous pouvez prendre le problème comme vous voulez. Elle a baissé de 10%.
Oui, mais les abonnements ont monté de 40%.
Et donc, baissé de 40%, qui
sonne. Non, ils ont monté de 40%, pas baissé.
Pierre Péan.
Non, la démonstration. Précision pour les auditeurs. Précision pour les auditeurs que la démonstration, elle peut pas être démolie comme ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre la plume, il faut écrire, il faut vérifier les chiffres un à un, il faut aligner. Nous, c'est une démonstration argumentée sur plus de 10 pages. Vous pouvez pas en deux coups de cuillère à peau, Monsieur Evenot, dire c'est pas sérieux parce que vous avez décidé que c'est pas sérieux. Dans le chiffre que vous avez cité augmentation des abonnements de 40% par rapport au nombre d'abonnés, pas par rapport à l'ensemble des lecteurs. Bon, on va pas faire de la statistique. Ici, c'est compliqué à l'antenne. Faut être sérieux. Faites-le par écrit.
Alors, je le fais.
Je me battrai à Marianne pour, si vous voulez, je vous offre les colonnes de Marianne pour répondre sur ce point à notre livre dans Marianne.
Mais bon, les abonnements ont augmenté de 40 000 exemplaires, bien plus que la faible chute de la vente.
Alors, attendez.
Vous savez très bien que c'est lié à la crise des MPP et de la diffusion française. Tous les journaux quotidiens perdent dans la vente au numéro.
Écoutez, ce chapitre-là...
Alain Gérard Slamet pourrait abonder dans mon sens. La vente au numéro est très mal en France.
On va laisser les réponses.
Ce chapitre sur les chiffres. nous n'avons pas utilisé de témoins parcellaires. Croyez que ce passage-là est fait avec les chiffres sur le bureau. Hein. Et c'est pas des chiffres, c'est les chiffres de l'OJD, c'est les chiffres des comités d'entreprise. Et en plus, nous sommes entourés de gens compétents pour faire l'analyse. Alors, vous pouvez pas faire votre grille d'analyse qui est d'une grille d'analyse
de. Ça n'empêche que vous les manipulez, c'est tout.
Hein. Écoutez, on verra ça. Répondez par écrit, sérieusement, pas comme ça.
On verra ça par écrit.
J'ai répondu par écrit.
Et effectivement, de toute façon, ça n'est pas possible. Là, il faut comparer des chiffres, il faut être sur du papier. Alain Gérard Slama.
Oui, je voudrais prendre un autre exemple qui montre que le procès d'attention, tout de même, c'est quelque chose qui ne vous est pas étranger. Il est vrai que Le Monde s'est engagé plutôt du côté de Balladur, et je dis bien plutôt du côté de Balladur. C'était assez subtil, ce jeu. Bon, et avec à la main qui était conseiller de Balladur. Alors, on peut émettre sur ce point le jugement qu'on voudra. Mais vous évoquez un titre du Monde donnant Balladur gagnant. Alors on se dit comment ce journal trafique l'information, il veut exercer une pression sur l'opinion. Oui, bien sûr qu'il a voulu exercer une pression sur l'opinion, mais il a utilisé les travaux d'un politologue éminent qui lui a donné un long article qui fait toute une page, et c'était la conviction de ce politologue reposant sur des sondages. Je veux dire par là que tout de même, aller accuser le journal à ce moment-là d'aller falsifier l'information, c'est tout de même beaucoup.
Non, attendez, faut regarder la présentation de la page. Hein. Je vous invite à retourner aux
archives. Je m'en souviens très bien. Mais oui, mais ça m'avait agacé. Mais c'est le droit du Monde tout de même de faire ce type de choix sur les bases que je viens de
d'abord,
dire.
D'abord, encore une fois, concernant cette affaire, je l'ai précisé tout à l'heure, il y a cette critique-là, mais beaucoup plus profondément, il y a le fait, encore une fois, de diligenter des enquêtes qui étaient destinées à salir la famille de M. Chirac, hein, qui se sont, notamment une enquête qui s'est révélée fausse, on démontre ça très précisément dans le livre, c'est ce type-là d'engagement qui est absolument irrecevable.
John Henley.
Ouais, le problème dans tout ça, je répète, c'est qu'il n'y a pas un contre-pouvoir au Monde. S'il y avait dans le paysage de la presse française d'autres journaux qui se donnaient la même importance qui jouaient le même rôle dans la société, dans la culture française, s'il y avait d'autres journaux qui étaient capables de montrer ce que faisait le Monde, de mener campagne pour l'autre camp, tout cela serait pas grave. Non,
Jacqueline Hénard.
Oui. Je vois une chose qui est propre au Monde.
Vous remarquerez juste, Alain Gérard Slama, que notre ami britannique du Guardian ne considère pas du tout le Figaro comme possiblement un autre grand titre de la presse française.
Vous savez pourquoi les étudiants de Sciences Po ne lisent pas le Figaro? C'est parce que leurs parents le lisent.
Parce que oui. Et parce que le dessin de Jacques Fosan n'est plus à la une, peut-être. Jacqueline Hénard.
Il y a une chose qui est frappante encore dans la critique que vous faites de la prise du pouvoir personnel par Edoui Plenel et Jean-Marie Colombani. Vous regardez uniquement leur méthode, mais je crois qu'il y a une chose, ou leur façon de faire avec la rédaction, il y a une chose qui est plus générale et qui n'est pas propre au Monde. Le Monde vit une crise de rajeunissement. Le personnel de la rédaction a beaucoup changé depuis que Jean-Marie Colombani est arrivé. Et c'est quelque chose qui n'est pas uniquement comme ça au Monde. On peut regarder des journaux britanniques, je connais très bien pour Die Zeit, où le personnel de la rédaction a changé de 50% en 2 ans. Et ce n'est pas les secrétaires qui ont changé, c'est les rédacteurs qui ont changé. À partir du moment, Die Zeit étant un hebdomadaire allemand, à partir du moment où vous avez un tel rajeunissement, un tel changement dans la rédaction s'affaiblit. Donc, les méthodes de gestion peuvent être ce qu'elles sont. La personne du rédacteur en chef ou du directeur de la rédaction, ou quel que soit son titre, prend un pouvoir qui est incomparable à ce qu'il a pu y avoir auparavant. Et à mon avis, c'est un changement qui est général dans le journalisme. Pour des raisons différentes dans les différents pays, les rédactions traditionnelles des journaux issus de l'après-guerre s'affaiblissent.
Oui, vous avez raison, votre remarque est très intéressante. Le seul problème, c'est que ce processus-là, qui est un processus délicat hein, pour l'identité d'un journal, il peut être fait de manière plus ou moins brutale. Je constate qu'au Monde, et c'est ce qu'on explique, bon là on ne va pas rentrer dans le détail, mais il a été réalisé de manière extrêmement brutale, c'est-à-dire que vous avez eu d'un coup embauche massive d'un certain nombre de rédacteurs, Et puis, départ tout aussi massif, peut-être, à mon sens, un peu prématuré, dans un certain nombre de cas, de ce qu'on appelle les jeunes... Il y a beaucoup maintenant, en France, vous allez partout, vous rencontrez des jeunes retraités du monde. C'est d'ailleurs... J'ai pas mal voyagé, moi, pour les rencontrer. Donc, c'est pour ça, et ils sont en pleine forme, ils peuvent écrire des papiers, mais bon, finalement, ils ont dû partir, quoi.
Antoine Guillaume.
Mais est-ce que finalement, la leçon qu'on peut retirer du livre, c'est que le monde... est un journal comme les autres, parce qu'on savait qu'en France, il y avait le groupe Hersant, il y a le groupe Hachette, qui ont des comportements d'entreprise, un groupe comme les autres, à ceci près que le monde a un actionnariat qui est tellement parcellisé qu'il ne représente que lui-même et non pas les intérêts d'un marchand de canons, par exemple.
Pierre Péan.
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que c'est... Pardon, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse en disant que c'est un qu'il est en train de devenir un journal comme un autre. Et voilà, c'est...
Oui, il se banalise en effet, mais en même temps, moi je crois quand même que, à travers le livre, on découvre qu'il reste une exception, mais malheureusement, pas dans le sens où on l'entendait du temps de Beuve-Méry.
Anne-Jarre Slama, je vois que vous voulez toujours ferrailler. Cela dit, puisque vous connaissez très bien justement la presse aussi de l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut se passer, cela dit? Parce que ça n'est pas évidemment sans incidence, la parution d'un livre comme celui-ci, quant à la presse en général, quant à l'éventuelle réflexion que d'aucuns journalistes considèrent qu'elle est nécessaire à mener sur le travail que nous faisons tous, que ce soit presse écrite ou radio. Et il est vrai que là, il y a une charge qui est tout de même très, très dure.
Oui, en tout parce cas,
sur une équipe, sur ce que ça a induit.
Il ne faudrait pas en effet que Pierre Péan et Philippe Cohen banalisent leur propre livre, qui quand même accuse le monde de beaucoup de turpitude, et c'est un peu contre ça, hein, c'est ça qui m'amène à intervenir. Ils se seraient contentés d'attaquer le monde, il y a de plus en plus de lecteurs du monde qui lisent le Figaro, hein, et qui passent au Figaro. Je tiens quand même à l'indiquer au passage.
De plus en plus de chroniqueurs.
Mais si vous voulez, oui, enfin ça passe dans les deux sens, hein, mais enfin bon, en général, je crois que ça prouve une chose. C'est que la qualité des contenus est au moins égale. Alors, maintenant, pour le point, et répondre à votre question, vous savez ce que je crois qu'il va devenir nécessaire, et là je vais presque plaider contre moi-même, c'est qu'il devient urgentissime que la presse se dote d'un code de déontologie. Parce que si on continue comme ça, on va avoir de plus en plus de rivalités de type années 30. Hein, ça ressemble de plus en plus à la crise des années 30, ce qui est en train de se passer. On va avoir de plus en plus d'arbitrages demandés à des juges. Et je ne crois pas que l'intervention du juge dans les conflits de la presse soit une solution souhaitable.
Dans le même temps, on sait très bien que la vertu n'a rien à faire avec ce métier non plus, Alain Gérard Slama. On sait très bien qu'un journaliste, et c'est là de votre cas aussi, Pierre Péan et Philippe Cohen, a aussi des amitiés, des sources, des protections et qui n'ont rien à faire avec, cela dit, la morale.
Je le dis pour moi-même.
Et des compromissions qui n'ont rien à faire avec la morale ou la, en même temps, non, ou la vertu ou la déontologie.
Ce qu'il faut éviter, c'est ce que dénonce Pierre Péan et Cohen, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des pressions, qu'il y ait des moyens de chantage, qu'il y ait des techniques.
Ou des collusions.
Des collusions. Entre... oui, voilà, c'est tout. Mais alors, la liberté d'opinion, d'où Jésus, préservons-la.
Il y a un mot qui a fait tilt en moi immédiatement dans ce qu'a dit M. Slama, c'est années 30. Parce que pour moi, ce qui relève des années 30, ce sont les deux chroniques Hier et Aujourd'hui de Pierre Georges, dans lesquelles Pierre et moi sommes de manière quasiment explicite traités d'antisémites. Et aujourd'hui, cette fois-ci, il s'en prend à Pierre Marcel, chroniqueur de Libération, qui lui aussi est accusé, alors là, c'est même qui est accusé de mettre le nom de Cohen entre parenthèses, ce qui serait, d'après lui, symptomatique. Donc là, je crois que là réside le vrai danger du dérapage qui était justement dénoncé par M. Slama.
Jacqueline Hénard, un tout petit mot.
Premier article du Code de la déontologie, je propose de dire que les rédacteurs en chef des journaux situés à Paris s'interdisent de participer à des dîners en ville avec d'autres rédacteurs en chef à Paris.
Je me souviens quand j'étais...
Pour ouvrir le débat.
Je me souviens quand j'étais journaliste...
Ça va faire des gens affamés. Hein.
Je me souviens quand j'étais journaliste à l'Express au début des années 70, c'était le thème favori de Jean-Jacques Servan-Schreiber, plus de dîner en ville.
Bien, merci à tous. Cette émission se termine. Nous ne voulions pas, cela dit volontairement, débattre davantage sur les cas précis ou les attaques précises que vous faites auprès et sur les personnes de Jean-Marie Colombani, Alain Minc ou Edoui Planet, dans la mesure où ils ne sont pas là pour en débattre ou y répondre tout à fait directement. Mais nous voulions donc commencer à voir, cela dit, ce que votre livre dit d'une évolution de la presse à partir du moment où il y a des enjeux effectivement financiers, capitalistiques importants et qui sont la marque pas seulement de l'évolution du monde, mais de l'évolution de la presse en général. Pour le reste, il faut lire en deux nuits et demie. Bon, on y arrive pas mal. Votre livre, s'y reporter, le contredire, évidemment, le mettre en doute également. Mais voilà, il faut après tout aller voir ce que vous écrivez, Pierre Péan, Philippe Cohen, La face cachée du monde, du contre-pouvoir aux abus de pouvoir. Document, c'est édité aux mille et une nuits. Alain Gérard Slama, votre journal de l'année 2002, Chronique des peurs ordinaires, est publié au Seuil. Patrick Evenot, Le Monde, 1944-1995, Histoire d'une entreprise de presse, c'est publié au Monde Édition. Et Le Monde, une histoire d'indépendance, c'est aux éditions, cette fois, Odile Jacob. Et puis, donc, on lit tout ce que vous pensez de mal des Français, John Henley, dans The Guardian. Merci d'être venu.
C'était un numéro de Tout arrive à propos de la face cachée du monde de Pierre Péan et Philippe Cohen. Première diffusion le 27 février 2003 sur France Culture.